Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Nous poursuivons aujourd'hui la série d'émissions sur le potager dans la moyenne vallée de l'Hérault. Vous êtes sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences 89, 96.7 et 102.9 MHz ou en podcast sur l'adresse rphfm.org. Cette série d'émissions est diffusée à un rythme mensuel. Au début de mois, nous décrivons et expliquons la pratique du potager en moyenne vallée de l'Hérault avec les membres des semeurs du Lodévois-Larzac, association qui existe depuis plus de 10 ans, ainsi qu'avec d'autres maraîchers professionnels qui auront la gentillesse d'apporter leur point de vue. Aujourd'hui, nous sommes deux des semeurs du Lodévois-Larzac. Mariano, producteur maraîcher à Octon, que vous pouvez rencontrer sur les marchés de Lodève et Clermont-Lérault, qui est en train de prendre sa retraite, et moi-même, Hubert, un jardinier amateur à Saint-André-de-Sangonis. À cette époque-là, on est au mois de décembre, les jours sont les plus courts de l'année, mais ils commencent déjà à de nouveau s'allonger, pas beaucoup, à la fin de décembre après Noël. Décembre est beaucoup moins pluvieux que novembre, mais il commence à faire froid. Donc je vais demander d'abord à Mariano de nous dire qu'est-ce que le client peut trouver sur les étalages, sur ses étalages, sur les marchés au début de décembre et dans le courant du mois de décembre.
Bonjour, c'est le matin. Sur les étalages à cette époque-là, c'est sûr qu'on trouve plutôt des légumes d'hiver. Il y a beaucoup de verres, oui, c'est l'époque de la salade, des blettes, les poireaux. Ceux qui ont des serres, ils peuvent aussi rallonger un petit peu la saison quelquefois avec de la batavia. On peut mettre plein de choses dans les serres comme du fenouil, des chouraves. Et après, bien sûr, ça commence la grande saison des choux. Les choux fleurs, les choux frisés, les choux cabus, les choux brocolis, les choux de Bruxelles qui vont commencer bientôt. Bon, en fait, on oublie les grosses salades de tomates de toutes les couleurs de l'été et on commence à rentrer en plein hiver. Décembre, oui, c'est un moment assez calme, hein, c'est le moment de repos. On peut se dire, la terre aussi rentre en repos, en léthargie un peu, et nous aussi, on peut limiter. Déjà, oui, les journées sont encore assez courtes, et bien que ça rallonge, comme disait Hubert. Mais bon, on peut prendre notre temps et travailler plus tranquillement, avec un rythme moins soutenu que dans la période automnale et estivale. Eh bien, c'est le moment peut-être de se mettre à réfléchir un peu sur ce qui a été la saison passée, ce qui a donné, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faudrait mieux améliorer. Et je pense que c'est le moment, tranquillement, au coin de la cheminée, peut-être, de se mettre à trier un peu les fonds du tiroir avec toutes les semences qu'on a. Quelquefois, il reste un tas de trucs, on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Ça, on les avait carrément oubliés. Il faut tenir compte qu'une semence, c'est un être vivant, donc il a une durée déterminée. Il y a des semences qui peuvent durer 10, voire plus, la tomate, par exemple.
Combien de temps qu'elle
10 ans. 10 ans. D'autres qui sont qui ont une vie moins longue, comme par exemple... les courges 6-7 ans, les salades 4-5 ans, les oignons, les poireaux, ça ne va pas plus loin que 2 ans. Donc il faut bien vérifier, voilà, que quand ce sera le moment de faire votre semis, la semence est encore bonne et pourra germer. Quelquefois on se trompe et on sème un sachet des poireaux ou des oignons, on ne va rien sortir. Et on panique, on ne sait pas comment, pourquoi. Peut-être on se donne la faute, trop arrosé, pas assez arrosé, tout ça. Mais quelquefois, c'était tout simplement parce que la semence était trop vieille. Et donc, la période de germination était finie, quoi. Donc, des poireaux, les poireaux, les oignons, 2 ans. Les moins longues, c'est Les panais, ça dure à peine 1 an. Hein.
Ah,
donc,
d'accord,
il y a d'autres panais, aussi qui sont assez. Mais bon, voilà, faire entrer dans les terroirs, et comme ça, on peut programmer aussi qu'est-ce qu'on doit acheter comme semences, qu'est-ce qu'on peut risquer de semer, même en les jetant juste dans un petit peu de terreau pour voir si ça germe et tout ça. Faire, comme on est à l'intérieur, on peut aussi essayer des tests de germination. On met un nombre déterminé de graines et on voit combien, quel pourcentage de germination il y a. Donc on vérifie si ça germe. Et voilà, toutes des choses qu'on peut déjà maintenant tranquillement au coin de la cheminée faire. Et tenir compte aussi de la qualité de nos semences collectives. Nous défendons les semences paysannes. Qu'est-ce que c'est une semence paysanne? Ben, c'est une semence qui est produite en général par des paysans, c'est-à-dire les hommes qui ont toujours dédié leur passion pour la graine, pour la semence, pour la production des choses pour manger et qui ont toujours... dans l'expérience de leur vue, soit des jardiniers, soit professionnels, vérifier qu'il y avait certaines variétés qui marchaient mieux, d'autres qui étaient plus fragiles, d'autres qui peut-être il fallait à un certain moment intervenir avec un petit peu de support, ceux qui aiment bien avoir du compost, du fumier, d'autres un peu moins. Donc, toutes ces choses-là, voilà, ça fait partir d'un vécu qui, pendant maintenant, depuis l'invention de l'agriculture, l'homme a expérimenté et apporté parce que c'était un élément vital pour son existence et donc a voulu petit à petit améliorer les variétés, les rendre plus productives, les rendre plus résistantes aux intempéries, au soleil. Et voilà, c'est le travail des paysans depuis que l'agriculture est née. Eh bien, ces dernières années, dans le contexte économique actuel, des gens ont voulu s'approprier de ces patrimoines biologiques et avec l'excuse de faire des recherches, etc., ben, ils ont sorti des variétés qui étaient assujetties à des monopoles. Donc, une tentative, si vous voulez, d'exproprier les paysans de sa propre nature, la capacité à reproduire, à ressemer, à échanger et même parfois à vendre ses propres semences. Il y a une réglementation qui s'est mise en acte petit à petit qui a été plus en défense des agro-industriels que des paysans. Ouais. Et les paysans ont été malheureusement dépourvus de leur pouvoir, des pouvoirs ressemer toutes leurs semences. Oui. Et ça, c'est la bataille qui porte le mouvement des semences paysannes, qui est un mouvement, bien sûr, régional comme l'activité du collectif, mais qui s'intègre dans un contexte national, voire même dans un contexte plus large au niveau de la défense internationale. Donc ça, c'est un travail simple à faire.
C'est la réflexion.
Alors, les semences paysannes sont des semences qui sont reproductibles telles qu'elles sont et qui ont donc une diversité, une biodiversité bien plus vaste que celle des semences qui sont sélectionnées, comme par exemple peuvent être les hybrides. C'est ce qu'on appelle les semences population. Parce qu'une semence, une graine, étant un être vivant, c'est comme chacun d'entre nous différent. les yeux bleus, les nez trop grands, les oreilles grandes, les beaux sourires et tout ça.
Bon, on a bien compris que c'était les semences paysannes. Donc c'est surtout, il y a un traité maintenant international, hein, le TIRPA, qui permet aux agriculteurs, normalement, de réutiliser leurs semences sans limite. Hein, voilà. Donc ce traité a été adopté aux Nations Unies en 2018. Hein, voilà. Bon, il n'est pas toujours suivi des faits. Donc on va revenir un peu sur les travaux du jardinier au mois de décembre dans la vallée de l'Hérault, et plus précisément, voilà.
Voilà, on va remettre les pieds sur terre, quoi. Les mains sur terre. Merci à Hubert, parce que quelquefois, les envolées théoriques ne sont pas très intéressantes. Oui, mais bien sûr, mais il y a toujours des choses à faire dans les jardins. Hein. C'est les nettoyages des planches qui se libèrent avec les gels. Les gelées qui ont fait périr les tomates, les aubergines, les poivrons. Et il y a aussi encore des petits semis à faire. C'est le moment où on peut, par exemple, semer encore des oignons. Mais on en a parlé pendant les interventions précédentes. Pratiquement, l'oignon, il y en a à toutes les sauces, quoi. Hein? Presque tous les mois, on peut semer, planter, récolter des oignons. Là, c'est le moment de semer les oignons des Tarasac, un oignon qui fait partie, en fait, des oignons, comme le cévenol, quoi. Un oignon qui est doux, des gardes, c'est-à-dire que vous pouvez les garder jusqu'au mois de mars, quelque quoi, même mois d'avril, si c'est bien stocké. Et c'est un oignon, justement, qui a la caractéristique de s'adapter à faire surtout des plats cuisinés, des tartes. Des soupes, voilà, c'est un oignon qui a été mis en valeur par les collectifs de l'Audevoir Larzac, par Marie et Yves Giraud, qui sont à Truscas, à côté des Bédarieux. Eh bien, c'était un oignon qui était presque disparu, et grâce au travail de Marie et d'Yves, et bien sûr avec l'appui des collectifs, on est arrivé à les remettre à l'ordre du jour, à les reproduire, à l'améliorer, à les sélectionner. Et maintenant, voilà, il y a même des professionnels qui font ça avec une certaine quantité, quoi. C'était un oignon que normalement, on disait qu'il fallait les semer au mois de janvier. Mais là, on s'aperçoit qu'avec les changements climatiques qui est vérifié maintenant dans nos champs et tout ça, ben, voyez les pluies au mois de novembre, fin octobre, il a plu énormément. Là, on attend le froid. Et bien, on s'est aperçu que peut-être il fallait avancer légèrement, même des mois. Voilà la connotation de notre collectif. C'est aussi d'expérimenter, voilà, cette adaptation de la graine au changement climatique. Okay. On s'est aperçu qu'effectivement, il fallait peut-être essayer de les planter un peu plus tôt et qu'on pouvait donc faire les semis déjà au mois de décembre plutôt qu'au mois de janvier, comme c'était dans la tradition.
Mais tous ces semis sont faits quand même, il fait froid la nuit, il peut geler, c'est fait en pleine terre, c'est fait sous abri, alors, c'est fait sous voile.
On les fait en caissette, qu'on met. À l'abri, bien sûr. En général, on peut maintenant, il y a des voiles de forçage, c'est ce qu'on appelle des voiles de forçage blanc, ça s'appelle les P17, avec ça. Ou autrement, avant, ben, les jardiniers, ils avaient toujours les châssis avec un vieil verre, le reste des vieilles fenêtres qu'ils mettaient sur les pour essayer de forcer et d'augmenter un petit peu la température.
D'accord.
Et une chose qu'on peut faire aussi, c'est par exemple, ben, on peut faire une petite couche chaude. Une couche chaude, ça consiste à mettre, ben, vous mettez quatre palettes ensemble, vous les liez, vous les remplissez bien de fumier, vous les tassez, vous l'arrosez, et au bout d'une semaine, vous allez voir qu'il... La température monte dans cet état de fumier, si c'est du cheval surtout. En utilisant cette chaleur, vous pouvez mettre votre caissette d'oignons sur l'état du fumier Et avec la température qui monte, si vous couvrez encore après avec un petit bout de plastique transparent, vous allez voir que la condensation, déjà, vous allez voir les matins, vous avez une condensation due à la chaleur qui émane du fumier. Et ça, ça peut activer la germination de la graine d'oignon. Okay. La graine d'oignon, ça dépend, hein, vous mettez une semaine, 15 jours à peu près.
Oui, c'est assez long quand même. Voilà. Hein? C'est assez long quand même la germination de l'oignon.
Oui, oui, oui.
Voilà, ok. Et donc, on devrait... La matière organique, comment vous gérez vos apports et c'est l'époque peut-être pour l'apporter là, en mois de décembre, ah, sur oui, le oui. terrain sur...
Ah, je voulais juste rajouter une petite curiosité sur l'oignon cette année. En fait, l'oignon est presque nu. Il y a très peu de peau. Or, les anciens jardiniers disaient que quand un oignon n'a pas trop de peau, l'hiver sera doux.
Oui,
c'est donc, je ne sais pas si la tradition, vu on ne comprend plus rien quelquefois à la température qui vient dans les saisons, mais normalement, l'oignon prévoit un hiver doux.
Voilà,
bon, oui. On lui fait confiance. Bien qu'un petit peu de gel, c'est toujours utile, parce que s'il n'y a pas de froid, il n'y a pas de fruits.
Oui,
les fruits, c'est important. Ah. Les gels, c'est important pour les arbres, pour qu'ils puissent après fleurir au bon moment et surtout fructifier.
Voilà.
S'il n'y a pas... je ne me rappelle plus maintenant exactement.
Ça s'appelle la vernalisation.
Voilà. S'il n'y a pas une vernalisation suffisante...
Voilà.
Les fruits ne seront pas au rendez-vous au printemps.
Ouais. Voilà.
Donc, nous, on espère quand même qu'il fasse beau temps, mais qu'il gèle quand même un petit peu, pas trop. Voilà. À ce propos, un des conseils que je vous dis, vérifiez vos robinets d'arrosage, parce que quelquefois, pendant l'hiver, on les oublie fermés. Il y a de l'eau et clac, un coup de gel et... Et au printemps, quand vous ouvrez, votre vanne est pétée, est cassée. Donc, il faut la vidanger, comme on dit. Et venons maintenant
On a plus de 3 minutes.
D'accord. aux arbres, oui. La culture des arbres, c'est le moment propice aussi. Ça a commencé déjà au mois de décembre, de planter des arbres fruitiers, de pêcher et tout ça. Mais c'est aussi de prendre soin des arbres qui sont en place. Alors, un conseil que je donnerais, c'est de badigeonner les troncs des arbres avec de la chaux. Moi, je mets à peu près 12 grammes par kilo de chaux pour faire un badigeon, pour peindre les... J'ai mis de la bouillie bordelaise dans la chaux.
Oui, donc bouillie bordelaise plus...
Bouillie bordelaise plus
de la chaux.
Et quelquefois, on rajoute aussi... un petit peu de sulfate de fer.
Ah bon?
En fait, c'est bien pour assainir les troncs d'arbres. Vous savez, les insectes, tout ça, ils se mettent quelquefois dans les petites crevasses de l'écorce de l'arbre. Et là, ils sont chauds et ils restent là. Voilà, ça permet d'assainir les troncs, d'éviter aux parasites de s'installer là et près de venir déranger l'arbre au printemps. Et ça donne aussi une protection sanitaire à l'arbre. Ça les revigorise.
Et ça, vous faites ça au mois de décembre.
Ça, c'est le moment maintenant de le faire, oui.
D'accord.
Quand l'arbre il commence à rentrer en dormance.
Oui,
après, au printemps, avec les pluies et tout ça, ça va partir.
Bon, on va arriver à la fin, là, Mariano. Sur quoi vous voulez conclure, là, une petite phrase ou deux phrases?
Je ne vais pas oublier de vous dire que si vous voulez semer des arbres à partir des noyaux, c'est le moment de les stratifier. C'est-à-dire que quand vous avez mangé une belle pêche ou un bel abricot ou cassé une belle amande qui vous trouvez intéressante et tout, vous pouvez prendre des noyaux, des pêches, d'abricots, des amandes ou d'autres fruits. Alors la stratification consiste à les mettre dans une terrine avec du sable ou du compost et les enterrer pas à 2 ou 3 cm et les exposer en plein nord, dehors. avec les gels, avec l'humidité, l'arbre, il va perdre, le noyau, il va perdre sa dormance. Mmh. Et au printemps, vous allez voir, au mois de février, en général, avec la floraison des l'amandier, les noyaux commencent à bouger et après, il va germer.
D'accord.
Et c'est à ce moment-là qu'il faut les prendre et les mettre, si vous voulez avoir une bonne arbre robuste, résistant et tout ça, eh bien, vous les mettez directement dans la terre, vous les protégez un petit peu et vous avez un arbre qui va avoir un pivot qui va aller en profondeur. Ça s'est fait maintenant de plus en plus pour adapter l'arbre aux périodes de sécheresse. L'arbre est beaucoup plus résistant, un arbre qui est semé par noyau, qu'un arbre que vous achetez et qui vous plantez après.
Voilà. Donc là, on va sur ces arbres, cette stratification. On va terminer l'émission aujourd'hui. Hein. Je suis désolé, Mariano, parce que je vois qu'il avait encore beaucoup de choses à nous raconter. Hein.
Comme voilà. Vous voyez, même au mois de décembre, n'oubliez pas de couvrir votre sol avec toutes sortes de matières organiques.
Oui,
si vous avez du compost, vous pouvez déjà commencer à mettre. Voilà, c'est fini.
Allez,
ça sera pour la prochaine fois.
Voilà. Donc ici se termine notre quatrième émission sur les semences paysannes et le potager, et ou sans oublier les arbres fruitiers, les semences paysannes et le potager dans la vallée de l'Hérault, et animé par les semeurs du Lodévois-Larzac, et particulièrement pour cette émission par Mariano, producteur maraîcher d'Octon. Hein. Et cette émission se poursuit à un rythme mensuel au début de chaque mois. Et nous remercions toute l'équipe de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud de nous permettre de nous exprimer. Maëva, Samuel, Axel et Pablo, hein, toujours aussi efficace, à la technique.
Merci à tous.
Chers auditeurs, auditrices, merci à vous.